RFI Musique.
Il est midi en temps universel, 15h30 à Téhéran. Le grand journal international sur RFI. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
À la une de ce journal, le chaos au Moyen-Orient.
L'opération militaire d'Israël et des États-Unis contre l'Iran se poursuit. De nouvelles explosions ont été entendues à Téhéran. Nous serons en direct de la capitale iranienne dès le début de ce journal. Un nouveau front s'est aussi ouvert dans la nuit au Liban. L'armée israélienne a annoncé frapper le Hezbollah en différents points en réplique à des projectiles lancés en direction d'Israël par la milice chiite pro-iranienne. Les monarchies arabes du Golfe subissent aussi le contre-coup de la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Des ressortissants français notamment sont bloqués. Nous entendrons des témoignages dans quelques minutes.
RFI Midi.
C'est donc la troisième journée consécutive depuis le début de l'opération militaire d'Israël et des États-Unis contre l'Iran.
L'armée israélienne mène des frappes à grande échelle contre le territoire iranien, dont de nouvelles cibles à Téhéran. Aujourd'hui, le régime iranien riposte sur plusieurs fronts, dont les monarchies du Golfe. Nous sommes avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Bonjour.
Bonjour.
Siavosh, de nouvelles explosions ont été entendues ce matin à Téhéran. Des frappes également ont eu lieu tout près de chez vous.
Absolument. Donc vers 14h30, 12h heure française, il y a eu une série donc de nouvelles frappes contre Téhéran, dans le centre de Téhéran, mais aussi tout près de chez moi, donc dans le périmètre de l'ancien palais royal de Saadabad, l'ancien palais du Shah d'Iran. Donc là, il y a deux choses qui auraient pu être visées, notamment des bâtiments de la présidence de la République. Là où précisément avaient été négociés en 2003 les premiers accords sur le programme nucléaire de Téhéran entre l'Iran et la Troïka européenne, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, donc sous le gouvernement de l'ancien président Mohammad Khatami, et aussi donc la maison de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ali Akbar Velayati, qui était un proche conseiller du guide suprême iranien. On ne sait pas encore pour l'instant lequel des deux cibles ont été visées, mais ce sont de nouvelles frappes contre différents quartiers de Téhéran, notamment le bâtiment des services d'urgence de Téhéran qui ont été visés aujourd'hui, ou la police diplomatique dans le centre de Téhéran, non loin de l'ambassade de France et de l'ambassade de la Russie et de la Grande-Bretagne, dans le centre de Téhéran, la place Ferdowsi. Donc des frappes un peu partout sur la ville, alors que d'autres frappes ont été menées dans la matinée contre différentes villes dans la partie occidentale de l'Iran, notamment la ville de Sanandaj, chef-lieu de la province du Kurdistan iranien, où plusieurs personnes, des civils, ont été tuées.
Les précisions de Siavosh Ghazi en direct de Téhéran et ce bilan provisoire, les frappes israélo-américaines en Iran ont tué plus de 550 personnes en deux jours selon le Croissant Rouge.
Alors que Donald Trump a dit envisager une opération de plusieurs semaines, chaque camp affiche sa détermination à poursuivre les hostilités et le conflit, Juliette, s'étend.
Un nouveau front s'est ouvert dans la nuit au Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir commencé à frapper le Hezbollah en différents points en réplique à des projectiles lancés en direction d'Israël par le mouvement chiite armé allié de l'Iran. Ces derniers mois, un cessez-le-feu était pourtant en vigueur, mais Israël continuait à frapper régulièrement. Nous sommes en direct de Jérusalem avec notre envoyé spécial permanente, Frédéric Misselin. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
L'armée israélienne a fait le point ce matin sur son dispositif et vous avez assisté à la réunion.
Oui, avec cette mise au point, tout d'abord, Israël n'envisage pas d'opération terrestre sur le territoire libanais à ce stade, mais renforce ses effectifs à la frontière avec le Liban et poursuit ses frappes. Cette nouvelle escalade fait suite, vous l'avez dit, au tir du Hezbollah la nuit dernière sur le territoire israélien. Nous n'avions pas l'intention d'intervenir si le mouvement chiite armé était resté en dehors du conflit, assure le lieutenant-colonel Nadav Shoshani.
Nous n'avons pas ouvert un nouveau front avec le Hezbollah. Nous devions nous préparer à un scénario selon lequel le Hezbollah rejoindrait la guerre. Et nous avons élaboré nos plans. À quoi ressemblerait la réponse israélienne si le Hezbollah faisait cela? Et c'est exactement ce qui se passe. Je ne dirais pas que cela devait arriver quoi qu'il arrive. Cela se produit parce que le Hezbollah a décidé de rejoindre l'Iran et de se battre à ses côtés.
Le ministre israélien de la Défense annonce aujourd'hui que le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, est désormais une cible. Par ailleurs, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur Téhéran. Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
Et au Liban, le gouvernement a interdit les activités militaires du Hezbollah pro-iranien et lui demande de remettre ses armes à l'État, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre Nawaf Salam à l'issue d'une réunion du cabinet.
Les monarchies arabes du Golfe, elles aussi subissent le contre-coup de cette guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.
Depuis samedi, des explosions retentissent dans le ciel de ces pays qui hébergent des bases militaires américaines. Dans le Golfe, la journée a une nouvelle fois commencé au son de fortes explosions à Dubaï, Doha, Manama. Une colonne de fumée s'élève au Koweït au-dessus de l'ambassade américaine. Le Koweït où plusieurs avions de combat américains se sont écrasés ce matin, mais leurs équipages respectifs ont survécu et ont été hospitalisés dans un état stable selon un communiqué du ministère de la Défense de l'Émirat. Des drones iraniens ont également visé une centrale électrique et une installation énergétique au Qatar. À Bahreïn, un navire visé par des projectiles d'origine inconnue dans un port a également été annoncé. Nicolas Falaise a recueilli le témoignage d'une touriste française bloquée à Dubaï, l'un des Émirats qui compose la Fédération des Émirats Arabes Unis.
Les monarchies de la péninsule arabique se rêvent en oasis de prospérité et de stabilité au Moyen-Orient. Les voici mêlées à une guerre dont elles ne voulaient pas et dont elles ont tenté de dissuader leur allié américain. Attaques de drones et de missiles dans le ciel de Dubaï notamment. Cet émirat qui fascine et attire tant d'expatriés et de touristes, soudain rattrapés par l'escalade régionale. C'est le cas de cette Française actuellement bloquée avec sa famille à Dubaï.
Ce matin, on a entendu deux déflagrations depuis notre hôtel. Dans les jours qui ont précédé, en fait, on était en centre-ville initialement. Et la première nuit de samedi à dimanche a été très, très mouvementée. Fréquemment, on recevait des alertes sur nos téléphones qui nous réveillaient donc en pleine nuit, nous prévenant d'attaques missiles, nous demandant de nous mettre à l'abri. Et généralement, ces alertes suivaient des bruits de déflagration qui faisaient trembler les vitres de l'hôtel. Enfin, c'était assez impressionnant.
Aucun vol retour en vue pour cette touriste française. Selon le ministère des Affaires étrangères, 400 000 ressortissants français sont installés ou de passage dans la douzaine de pays du Moyen-Orient concernés à différents degrés par le conflit en cours.
Nicolas Falaise du service international de RFI.
Alors pourquoi effectivement ces pays du Golfe sont-ils particulièrement visés? On va essayer de mieux comprendre dans une dizaine de minutes avec notre invité Jean-Loup Saman, expert associé sur le Moyen-Orient à l'Institut Montaigne.
Et dans ce conflit qui embrasse toute une région, deux drones visant la base britannique à Chypre ont été détruits d'après le gouvernement chypriote il y a quelques minutes. La base militaire britannique dans le sud de Chypre a été également visée cette nuit par une attaque de drones présumée selon le ministère de la Défense britannique. Il ne déplore que des dégâts matériels légers. Depuis samedi, Londres s'est montrée très prudente, préférant ne pas s'engager aux côtés des États-Unis face à l'Iran. Mais Emeline Vint, le Premier ministre, a autorisé dimanche soir Washington à utiliser ses bases militaires.
Le Premier ministre britannique le rappelle, il soutient une solution diplomatique plutôt que militaire sur le dossier nucléaire. Cependant,
les États-Unis nous ont demandé la permission d'utiliser des bases militaires britanniques à des fins défensives spécifiques et limitées. Nous avons décidé d'accorder cette permission afin d'empêcher l'Iran de lancer des missiles sur toute la région. Cette décision se base sur l'autodéfense collective de nos amis et alliés de longue date et sur la protection des Britanniques.
And protecting British lives. Ces bases dans l'ouest de l'Angleterre et sur l'île de Diego Garcia dans l'océan Indien, Keir Starmer en avait refusé l'accès à Donald Trump il y a deux semaines. Pour autant, ce revirement ne présage pas d'une intervention britannique en Iran.
Nous nous souvenons tous des erreurs commises en Irak et nous avons appris de ces erreurs. Nous n'avons pas participé aux frappes initiales en Iran et nous n'allons pas rejoindre les opérations offensives.
Le soutien britannique à l'invasion américaine en Irak en 2003 reste perçu comme l'une des pires décisions politiques de l'histoire. Londres prépare aujourd'hui un vaste plan de soutien pour ses 200 000 ressortissants présents dans le Golfe, la plupart des touristes en transit. Emeline Van Londres, RFI.
Et les chefs d'État de la France, l'Allemagne et du Royaume-Uni ont annoncé être prêts à des actions défensives proportionnées afin de détruire à la source la capacité de l'Iran à tirer des missiles et des drones dans une déclaration publiée ce dimanche. Le président français Emmanuel Macron prendra par ailleurs la parole à 15h15 heure de Paris pour s'exprimer sur la dissuasion nucléaire française et l'Europe face à la brutalisation croissante du monde et à un allié américain de plus en plus incertain. Un enjeu brusquement remis en lumière par l'offensive israélo-américaine en Iran. Iran ce week-end, avec en arrière-plan la crise du nucléaire iranien qui secoue tout le Moyen-Orient et par ricochet la communauté internationale. L'Agence des Nations Unies pour l'énergie nucléaire, elle, a organisé ce matin une réunion extraordinaire. La réunion se tient à l'initiative de la Russie, alliée de Téhéran. L'agence est chargée de promouvoir l'usage pacifique de l'énergie nucléaire et ses rapports avec l'Iran se sont dégradés après la courte guerre lancée le 13 juin dernier par Israël. Le site nucléaire de Natanz a été attaqué dimanche par les Américains et Israël a déclaré pour sa part l'ambassadeur iranien à l'agence.
RFI à Paris, 89 FM.
13h10 à Paris. Cette question à présent, Juliette, le procès de Tariq Ramadan aura-t-il lieu ?
Convoqué ce matin devant la cour criminelle de Paris pour répondre des accusations de viol sur trois femmes, l'islamologue ne s'est pas présenté. Sa défense indique qu'il est hospitalisé en Suisse et demande le renvoi du procès alors que son état de santé avait été jugé conforme à la comparution. Pour les parties civiles et le parquet, il s'agit d'une excuse médicale. L'avocat général a même requis un mandat d'arrêt à son encontre. Amélie Beaucourt, bonjour.
Bonjour Juliette.
Vous êtes au Palais de Justice de Paris et vous étiez à l'audience ce matin. La Cour peut-elle reporter à nouveau le procès ?
Eh bien, c'est ce qu'on va savoir cet après-midi. L'audience a été suspendue pour que la défense de Tariq Ramadan puisse fournir d'ici 2 heures environ des preuves que l'état de santé de leur client justifie réellement son absence à l'audience. Un certificat médical lu par l'une de ses avocates ce matin atteste qu'il souffre depuis plusieurs années, et on le savait, d'une sclérose en plaques. Et bien que son état soit stable, comme l'avait montré une expertise versée au dossier, il aurait eu une poussée ces derniers jours et ne serait pas en mesure de voyager. Certificat médical que les parties civils remettent en question puisqu'il est signé de la main d'un médecin traitant qui le suit depuis très longtemps et qu'il pourrait, selon eux, y avoir une forme de complaisance. Le parquet lui a été encore plus sévère, a accusé Tariq Ramadan d'utiliser tous les moyens pour ne pas être jugé avant de demander un mandat d'arrêt à son encontre. Rappelons que Tariq Ramadan est sous contrôle judiciaire en France et que son hospitalisation en Suisse posait aussi question ce matin. Côté partie civile, vous l'aurez compris, on ne veut absolument pas d'un report du procès. L'une des victimes présentes dans la salle attend depuis 9 ans ce jugement. Précisons aussi qu'une autre plaignante souhaite demander le huis clos du procès. La question sera réglée dans un second temps, mais si elle en fait effectivement la demande, cela lui sera accordé de droit, car c'est la loi en matière de viol.
Amélie Beaucourt en direct du Palais de Justice de Paris. Dans l'actualité judiciaire aussi, 4 militants de Greenpeace France sont en garde à vue, interpellés à la suite d'une action menée ce lundi matin dans le port de Dunkerque, dans le nord du pays. Action visant à bloquer un cargo russe suspecté par l'ONG de transporter de l'uranium russe à destination des centrales nucléaires de l'Hexagone. Car si le charbon, le gaz et le pétrole ont largement été visés par les sanctions européennes à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, l'atome est pour l'instant toujours épargné, Simon Rosé.
Et oui, une grande pancarte EDF aime Poutine, des kayakistes avec des panneaux solidarité avec les Ukrainiens et un cargo russe, le Mireil Doudin, bloqué durant quelques heures dans le port de Dunkerque. Greenpeace dénonce régulièrement la poursuite des échanges entre l'industrie nucléaire française et la Russie. En effet, selon l'ONG, c'est bien de l'uranium qui se trouve à bord de ce cargo. Malgré la guerre en Ukraine, ce secteur n'est pas sous le coup de sanctions européennes et même si les volumes ont grandement diminué depuis son déclenchement, la France a tout de même encore importé 112 tonnes d'uranium enrichi de Russie l'an dernier pour faire fonctionner ses centrales nucléaires. Paris dispose pourtant d'installations industrielles capables d'enrichir l'uranium, installations dont un élargissement est même prévu. Les travaux ont débuté il y a un peu plus d'un an. Mais dans le même temps, la France continue de faire appel au service de Rosatom, le leader russe mondial en la matière. Et si des discussions ont bien lieu à l'échelle européenne pour se passer du combustible nucléaire russe et le remplacer par une solution souveraine, aucun calendrier n'est pour l'instant arrêté.
Les précisions de Simon Rosé, chef du service environnement de RFI.
Et puis dans l'actualité économique, ce lundi, c'est le début de la 20e édition du Mobile World Congress à Barcelone.
C'est le plus grand salon mondial de la technologie de télécom qui durera 4 jours et qui n'est plus seulement consacré aux smartphones, mais à beaucoup d'autres secteurs. Correspondance de Élise Cazangel.
Pour cette 20e édition du Mobile World Congress de Barcelone, les plus grands noms de la téléphonie mobile mondiale seront bien évidemment présents, mais pas seulement. D'ailleurs, plus de la moitié, 60% des participants actuels, n'appartiennent pas strictement au secteur, mais à des industries connexes telles que l'automobile, la santé, la défense ou encore la connectivité spatiale. Cette année, les entreprises SpaceX et Starlink auront par exemple une place privilégiée. Et puis l'IA, l'intelligence artificielle, devrait être omniprésente sur les stands, même les nouveaux. Pour la première fois, le continent africain aura son propre propre pavillon et il devrait présenter son LLM, son propre modèle linguistique intégré à l'IA, notamment en langue swahili ou zoulou. Les organisateurs espéraient que cette édition batte le record de plus de 110 000 participants sur 4 jours. Mais la situation en Iran et les nombreux vols annulés au Moyen et Proche-Orient risquent de perturber ces prévisions. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
RFI Midi continue avec vous, Clotilde Dumay.
Et c'était le journal de Juliette Pietraszewski. Les sports, bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Clotilde.
Et du football d'abord, hein, séance de rattrapage pour les clubs qui n'ont pas joué ce week-end. C'est le cas notamment du Real Madrid en Espagne.
Le Real sous pression, Barcelone a fait le trou en battant Villarreal samedi. 4 points d'avance. Il faut répondre vite, gagner.
Le mix de toutes les cultures.
Galabao, galabao, Alors cette semaine, c'est un invité assez particulier que je vous propose de rencontrer, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis plus de 25 ans, mais c'est une des premières personnes que j'avais rencontrées quand j'ai commencé à me poser des questions sur l'écologie. Il n'était pas encore question d'avoir une émission de radio, c'est venu peu de temps après, mais juste après. Et c'est une personne qui m'a accueilli dans son jardin, qui m'a fait partager sa passion, j'ai acheté quelques plantes. Il s'agit de Serge Rieu de Batte. Bonjour.
Bonjour.
Alors Serge, on s'est connu à une époque donc, où tu avais un jardin botanique en montagne, où tu avais des plantes des montagnes du monde entier, tu avais une collection assez folle. En deux mots, rappelle-nous cette aventure qui n'est plus la tienne maintenant.
Ben moi j'étais horticulteur botaniste donc, et puis bon, j'avais fait un peu le tour de la question et comme j'étais toujours en montagne donc, à vadrouiller, randonnée, etc. donc, et à regarder les plantes donc, j'ai fait une ébauche d'un petit projet de jardin botanique donc, que le Parc National des Pyrénées a assez vite récupéré quoi. On s'est rencontrés et finalement ils m'ont aidé à concrétiser un jardin botanique donc, qui s'est trouvé puisqu'il n'existe plus actuellement donc, sur les pentes du Tourmalet côté Barenge au pont de la Gobie quoi. Et donc le but de ce jardin en fait c'était de présenter la flore des Pyrénées puisque sur la fin il y avait 2500 espèces mais aussi il y avait des plantes un peu du monde entier pour montrer un peu les comparaisons dans certains genres donc de ce qui se trouvait ailleurs, pardon, et dans les Pyrénées, quoi. Dans ce jardin, ça a duré 17 ans et j'ai eu quelques soucis de santé, donc j'ai dû m'en défaire et actuellement, il n'existe plus puisque la personne qui a repris ce jardin n'a pas su forcément le gérer correctement, quoi.
Problème de santé, on change de vie, mais il y a une chose qui est restée chez toi, c'est quand même cette passion du vivant végétal en particulier. Tu es parti sur les espèces anciennes, mais sur les fruitiers ensuite.
Oui, tout à fait. C'est pas le fruit du hasard, puisque dans mon premier métier, j'étais horticulteur botaniste et on faisait un peu d'arbres fruitiers qu'on vendait sur des marchés et sur la pépinière. Mais je connaissais une personne au CPE, Centre d'initiation permanente à l'environnement.
Il y en a un petit peu dans toutes les villes et il y en a un ici qui est d'ailleurs, je crois, assez historique à Bagnères-de-Bigorre.
Voilà, tout à fait, à Bagnères-de-Bigorre. Ce CPE venait souvent au jardin et j'avais lié d'amitié avec une personne en particulier qui s'appelle Béatrice Morrison. Et cette personne, elle était chargée au Conservatoire botanique pyrénéen, à travers Fruits de terroir, de faire un inventaire sur les fruitiers, les vergers sur les Hautes-Pyrénées, quoi.
Pas les arboriculteurs qui y ont planté de la golden à l'hectare.
Non, contrairement. C'est les vergers historiques, les vergers, les casalaires, comme on appelle souvent, dans les vieilles fermes. Parce qu'en fait, c'est un patrimoine qui existe, ce patrimoine disparaissait à vitesse grand V, quoi. Et cette personne, Béatrice Morrison, m'a contacté, quoi, pour savoir si j'étais intéressé, pour l'aider, pour l'épauler, puisque j'avais les connaissances au niveau des fruitiers, quoi. Finalement, moi, j'ai vraiment mis le pied à l'étrier. On a fait quelques inventaires dans certains lieux. Moi, je suis allé encore plus loin. Moi, c'était bénévolement, c'était de l'investissement de passion, quoi. J'ai vadrouillé sur une grande partie des Pyrénées, de l'Ariège jusqu'au Pays Basque, retrouver des variétés à travers des vergers, des villages, des personnes, des connaissances, des associations, quoi. Et le but, de tout ça, c'était de conserver ces variétés anciennes qui étaient un patrimoine, qui est un patrimoine, quoi, et qui disparaissaient puisque beaucoup de ces arbres fruitiers étaient arrachés avec l'agriculture moderne, ça gêne, etc. C'était plus rentable pour eux, quoi.
Et alors, quel est l'intérêt de sauver des variétés anciennes? En quoi c'est un patrimoine? C'est un patrimoine génétique? C'est un patrimoine ethnologique? C'est un patrimoine gustatif?
C'est un peu tout. Il y a un lien affectif des gens, un aspect paysager aussi. Un gustatif aussi, parce qu'il faut savoir, monsieur tout le monde va acheter sa pomme, par exemple, au supermarché, ces variétés modernes, quoi. Mais ces variétés anciennes, elles ont un intérêt gustatif, parce qu'elles ont des goûts différents, des conservations différentes, mais aussi il faut savoir que ces pommes anciennes, si vous mangez une de ces pommes-là, il va falloir manger presque un kilo de ces pommes modernes que vous achetez au supermarché, qui sont gorgées d'eau, etc., pour avoir l'équivalent en vitamine C. Elles vont se conserver sans être dans des chambres froides ou vers certains produits aussi. Elles ont surtout un intérêt gustatif, visuel. Il y a une telle diversité. D'ailleurs, en France, il y a beaucoup de conservatoires dans différentes régions qui conservent ces variétés anciennes. Il n'y a pas que nous ici, que dans les Pyrénées, quoi.
En fait, chacun est acteur. Il n'y a pas de politique, on va dire, d'État gouvernemental pour la conservation de ce patrimoine génétique, qui a aussi un intérêt face aux maladies, je suppose. Quand je te parlais de génétique, c'était un peu ça. C'est qu'ils vont, évoluer différemment. Un petit peu aussi. Donc tout l'intérêt, on va dire, de ces groupes qui vont se constituer, de chacun de planter des choses anciennes chez lui.
Oui, tout à fait. Hormis la diversité, mais on voit actuellement les grandes pépinières qui créent des variétés modernes, ils bloquent un peu parce que quand on fait de l'arboriculture moderne, il y a des maladies, il faut traiter encore plus. Il y a des problèmes avec des porte-greffes, etc. Des problèmes de fructification aussi.